Très bonne et sainte année, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue à l'émission Magnificat en ce 7 janvier 2024, émission de l'association Marie de Nazareth. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous voilà repartis pour une année avec la Vierge Marie et Justina, spécialiste en théologie, qui évoquera Épiphanie et Théophanie. Bonjour Justina.
Bonjour.
Cette semaine, j'ai la grande joie d'accueillir Dominique Chollet. Bonjour Dominique.
Plaisir partagé.
Merci. Qui œuvre depuis de très nombreuses années à faire connaître la dévotion à Marie qui défait les nœuds suite à une grande grâce de la Vierge Marie. Alors Dominique, vous avez commencé à éditer un magazine sur les jardins sans parler des plantes, ce qui peut sembler étonnant. Puis vous êtes passé à Marie qui défait les nœuds en juillet 2001. Vous avez édité la neuvaine à Marie qui défait les nœuds en plusieurs langues que vous avez transmis à MDN Productions, la partie éditrice de l'association Marie de Nazareth. Alors c'est la Vierge Marie qui vous a conduit à cela après une vie professionnelle qui a connu un soubresaut inattendu. Elle vous savait bâtisseur et surtout ce qui me marque beaucoup chez vous puisque voilà, nous nous connaissons, elle connaît votre indéfectible confiance en elle. La Vierge Marie pour laquelle vous avez travaillé avec les Vierges pèlerines, qui sont aussi les fondations de notre association, puisqu'Olivier Bonassi, qui a créé l'association Marie de Nazareth, avait travaillé avec vous, hein, à vos côtés, avec Maître Fricoteau.
C'était le fondateur.
Voilà. Nous avions évoqué la dévotion à Marie qui défait les nœuds dans la première émission au mois d'octobre, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de la radio, en cherchant le nom Magnificat. Mais je résumerai très succinctement cette dévotion pour ceux qui ne nous écoutaient pas encore. Un ménage dans la tourmente demanda à un prêtre de prier avec eux et pour eux, afin que leur ménage soit sauvé, ce qu'il fit. Il avait auparavant demandé au couple de faire autant de nœuds sur leur ruban de mariage que de soucis qu'ils vivaient. Ce ruban devint d'une blancheur intense lors de la prière du prêtre, qui était alors au pied du tableau « Mater, Ter Admirabilis ». Au même moment, l'époux se sentit délivré de tout son ressentiment pour son épouse et le couple fut sauvé. En commémoration de cet événement, le petit-fils de cette famille, les Langenmantel, demanda à un prêtre en guise d'ex-voto de peindre la Vierge Marie dénouant les nœuds d'un ruban de mariage. Alors nous ferons cette émission en deux parties. Puisque la prochaine fois, nous parlerons de cette dévotion que notre pape, le pape François, aime particulièrement. Alors Dominique, comment et pourquoi a été écrite la neuvaine? Et vous me direz ensuite quel est son développement dans le monde.
C'est dommage qu'on commence par le père Celeiro qui a écrit la neuvaine, parce que, en fait, c'est le père Bergoglio, c'est le futur pape François, qui est à l'origine. Le père Bergoglio, dans les années 1985-86, après avoir été le provincial, c'est-à-dire le chef des jésuites d'Argentine et de l'Uruguay, je crois, j'en suis pas certain, s'est retrouvé, après les honneurs, il s'est retrouvé comme petit professeur, au 36e dessous, il faut être clair. Il vivait dans une chambre de 9 mètres carrés, sans chauffage, sans toilette, et très loin de Buenos Aires. Ça, c'était une contrepartie de la réussite qu'il avait eue préalablement. On pourra y revenir plus tard. En 86, comme je vous disais, il est au fond du trou, et là, il a reçu, par hasard, une carte postale qui faisait 5 cm sur 8 hein, ou 10, représentant un tableau bizarre. C'est l'une des deux seules représentations de la Vierge Marie qui travaille. C'est-à-dire, elle, là, avec de ses mains, elle dénoue les nœuds d'un ruban. Bon. Le père Bergoglio était au fond du trou, je vous le dis. Et à ce moment-là, à l'instant même où il reçoit cette image, immédiatement, il comprend que la Sainte Vierge, ici, maintenant, pour lui, est à côté de lui et va travailler pour dénouer le nœud qui l'étouffait. Quoi. Alors, ça, c'était dans les années 86. Et il a fallu du temps pour que les Argentins qui se relevaient à peine d'une longue dictature sanguinaire et sanglante, et qui était un pays de chômage total, ils se relevaient à peine de cette période terrible. Ça s'appelait l'époque des colonels. Et à ce moment-là, le père Bergoglio reçoit cette image, se met à la diffuser, et immédiatement, comme pour lui, l'image qu'il diffuse est immédiatement la symbolique de l'image qu'il diffuse, qu'il avait reçue et qu'il diffuse, est immédiatement comprise par les Argentins. Puis, par tous les habitants d'Amérique du Sud, même s'ils parlent de deux langues différentes, l'espagnol et le portugais. Quand les Argentins reçoivent cette image, très immédiatement, ils comprennent que la Sainte Vierge va venir les aider là où ils en sont, que ce soit essentiellement à l'époque pour eux des problèmes de chômage, des problèmes de perte d'enfants ou de mari dont on n'avait plus de nouvelles, parce qu'ils avaient été l'objet d'un rapt par la junte. Et ils comprennent que la Vierge Marie va les aider. Et les files de personnes qui viennent prier à la sortie des églises, alors plutôt à l'entrée, il faut être clair, et c'est, la file ne cesse de s'allonger, et parfois les personnes font 2, 3 ou 4 heures de stationnement, de piétinement avant de pouvoir rentrer dans l'église où il y a une représentation de la Vierge. Bon. Parmi les curés de paroisse qui ont une Vierge comme ça, il y a le Père Celeiro. Et le Père Celeiro et son évêque l'envoie faire une retraite. Au cours de cette retraite, il se dit « Mais moi, je leur donne à manger, je leur donne à boire à tous ces pèlerins qui viennent dans mon église, mais maintenant, il faudrait que je leur donne une nourriture spirituelle pour leur permettre de progresser. » Et c'est comme ça qu'a été écrite la neuvaine à Marie qui défait les nœuds.
Alors, il existe plusieurs versions, il me semble, mais il n'y en a qu'une originale, n'est-ce pas ?
Il n'y a qu'une version originale, ben vous savez, c'est normal. Hein. La neuvaine du Père Celeiro a été traduite très immédiatement en Europe en 6 langues. Un peu après, il y a eu plusieurs autres langues. Et le succès attire les convoitises. Alors, il y a eu beaucoup d'éditeurs qui ont voulu également se mettre sur les rangs.
Alors donc, quand vous avez créé les éditions du Ginkgo, vous avez donc édité cette neuvaine originale que nous, maintenant, Association Marie-de-Nazareth, avons la joie de diffuser. Et donc, lorsque on achète cette neuvaine, cela aide, j'imagine, le Père Celeiro.
Je vais vous dire tout de suite, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez la voler. Je vous explique. Le jour, quand on a lancé la neuvaine en 2001, on l'a lancé à Paris le Monial chez les Manuels.
Oui. Ben,
après les vacances, il y a le responsable de la librairie de l'Emmanuel qui vient me voir extrêmement penaud en me disant « Mais monsieur, je suis extrêmement triste, c'est terrible, on vous a volé 800 neuvaines, 800 livrets. » Je lui aurais sauté au cou tellement j'étais heureux. Je me suis dit « C'est la meilleure nouvelle que vous puissiez me donner, c'est sûr que ça va faire un tabac sur le plan éditorial. »
Et ça a été le cas.
Cette histoire me fait vraiment penser à une vieille blague où effectivement on dit que paraît-il que chez les bouquinistes on a volé un livre qui s'appelle « Comment vivre de manière chrétienne ». Bon, attendons le retour du livre.
Alors donc, dans sa paroisse San Juan Batista à Buenos Aires, il y a encore cette dévotion qui est très présente.
Le Père Celeiro m'envoyait hier, et je vais le diffuser, des photos d'une longue procession qui a eu lieu le 8 décembre au hasard. Et dans cette procession, il y avait évidemment le tableau de Marie qui défait les nœuds qui était promené, mais aussi la statue de Notre-Dame de France, pour ceux qui ont eu la joie de participer aux Vierges Pèlerines il y a 30 ans maintenant.
Ah oui. Est-ce que chez eux aussi, ils ont la coutume d'apporter un ruban dénoué symbolisant la...
Je ne sais pas. Chez le Père Celeiro, je ne sais pas. Le connaissant, je serais étonné qu'il fasse ça, parce que c'est quelqu'un qui est assez froid et qui se méfie des débordements.
Ah oui.
Le connaissant, ça m'étonnerait, mais j'en sais rien.
Mais dans d'autres. À Cancun, il croule sous les rubans lisses.
Il croule sous les rubans, oui, ouais, c'est vrai.
Ouais. Très bien. Alors, voilà, j'ai un défi aujourd'hui. Je propose à tous les auditeurs, je sais que vous êtes environ 10 000 à nous écouter, tous les auditeurs qui nous écriront à magnificat@mariedenazarethletoutattaché.com, tous ceux qui m'écriront à cette adresse, je leur promets que je leur offrirai une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Voilà.
Ils n'ont pas de problème. Hein. Pourquoi ?
Ben, peut-être qu'ils ont des amis qui en ont. Voilà, ben, écoutez, merci beaucoup Dominique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. À présent, nous allons écouter les litanies de la Vierge. Ave Maria, priez pour nous, aux éditions de l'Emmanuel.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors, cette semaine, Justina, vous voulez nous parler d'épiphanie et théophanie.
Oui, car la veille de Noël, on parle de Noël, et il est donc tout à fait logique de parler de la fête de l'épiphanie, telle qu'on l'appelle dans la tradition occidentale, ou bien de la théophanie dans la tradition orientale. Je reconnais qu'en préparant ce cycle festif, je ne savais pas réellement si je devais suivre l'ordre chronologique des fêtes en question, ou si je devais suivre la chronologie de leur apparition. Bon, finalement, je décide de suivre le calendrier d'aujourd'hui. Pourquoi cela ? Car la tradition antérieure était de fêter la nativité, l'épiphanie, c'est-à-dire la visite des rois mages, et la théophanie, donc le baptême du Christ dans le Jourdain, le même jour. Aujourd'hui, les catholiques romains et les orthodoxes fêtent la nativité, c'est-à-dire que les orthodoxes qui sont sur l'ancien calendrier fêtent la nativité, l'épiphanie du côté occidental, et la théophanie du côté oriental, ceux qui suivent le nouveau calendrier. Et dans l'église apostolique arménienne, qui est sortie du champ canonique en 451, lors du concile de Chalcédoine, ce sont toujours les trois fêtes qui sont réunies, et ça se fête le 6 janvier. Et les premières mentions des trois fêtes en même temps datent du 2e siècle, donc ça commence chez les gnostiques, curieusement, mais l'Église reprend cette fête justement pour éviter de ne pas la laisser chez les gnostiques, et déjà effectivement Clément de Rome en parle, et... Pardonnez-moi. Donc aujourd'hui, nous voyons cette trace de lien profond entre l'épiphanie et la nativité, rien qu'en regardant les crèches, car nous voyons les rois mages s'incliner devant le Christ nouveau-né, tandis qu'en réalité, quand les rois mages sont arrivés, un certain temps s'est écoulé. Ils aperçoivent l'étoile de Bethléem le jour de la nativité et partent en chemin. Nous ne savons pas exactement d'où ils sont partis et combien de temps a duré leur voyage, mais selon la réaction d'Hérode qui ordonne de tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, on peut supposer que les rois mages ont mis entre 6 mois et 1 an à arriver ne serait-ce que devant Hérode. Il n'y a donc pas de lien temporel direct entre la nativité et l'épiphanie, mais il y a un lien liturgique et symbolique. J'aimerais aussi rappeler que les rois mages, leurs prénoms Melchior, Gaspard et Balthazar sont issus de la tradition médiévale et on ne peut pas du tout affirmer leur authenticité. Par contre, on peut supposer leur provenance, car en effet le terme magoi en grec est employé seulement dans 2 cas de figure dans la littérature antique. Soit ce sont des astrologues mésopotamiens, soit ce sont des prêtres du culte zoroastrien et ils viendraient du pays des Perses. Dans la tradition orientale, l'accent sur la venue des rois mages est mis pendant la liturgie de Noël, sans y dédier une fête à part comme le fait la tradition occidentale. Par exemple, nous le voyons bien dans le texte du tropaire de Noël, dans l'église orthodoxe. « Ta nativité au Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. En elle, les serviteurs des astres ont appris d'une étoile de t'adorer, soleil de justice, à te connaître, Orient venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi. » On le voit aussi dans le Condacion, la Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent et les mages avec l'étoile s'avancent car tu es né pour nous petit enfant, Dieu éternel. Dans le Condacion, nous voyons bien la conscience que le rapprochement entre la nativité et l'épiphanie est là, mais sans toucher à la chronologie des faits. Et comment ça se passe dans la tradition occidentale ?
Eh bien, Justina, j'ai vérifié dans mon missel qui stipule que l'épiphanie était fêtée dès le 3e siècle chez les orientaux. Mais nous avons, à la fin du 4e siècle, commencé à fêter aussi cette épiphanie. Je rappelle que le mot épiphanie signifie manifestation. Comme à Noël, c'est le mystère d'un Dieu qui se rend visible. Mais ce n'est plus seulement aux Juifs qui se montrent, c'est aux gentils. Les gentils en goïm en hébreu, c'est-à-dire non-juifs, ceux des autres nations, en gros les païens. Et en ce jour, Dieu révèle son Fils par l'apparition d'une étoile. Et Isaïe, dans l'évangile du jour de l'Épiphanie, aperçoit l'Église figurée par Jérusalem, où afflue la multitude de gentils qui viennent de loin, en apportant, comme on le sait, de l'or et de l'encens. C'est en fait dire tout leur amour. Alors l'Épiphanie est pour nous comme un programme. La foi, le baptême, les rites, la messe et donc le sacrifice de Jésus-Christ mort sur la croix pour racheter nos péchés sont notre étoile. Donc là, oui, nous pouvons faire un rapprochement entre nativité et épiphanie.
Bah, du côté oriental, l'accent liturgique et de la théophanie est mis sur le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est un événement qui est déjà assez paradoxal. Ouais. Celui qui n'a pas besoin de se repentir accepte le baptême de Jean-Baptiste. Il le fait seulement pour accomplir les Écritures. Le Messie doit, comme tout juif, suivre les préceptes de la loi de Moïse et elle prévoit l'immersion dans un bain rituel de purification temporaire. On appelle ça le mikvé. Celui-ci ne porte pas en lui la souillure de la chute d'Adam. Il accepte une purification rituelle par humilité. Et c'est à ce moment, notre Dieu qui est Trinité se manifeste pleinement pour une première fois. On entend la voix du Père, nous voyons le Fils et l'Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe. C'est bien pour cela que nous appelons cette fête la théophanie, l'apparition divine, car la Trinité se manifeste pour la première fois de manière explicite.
Alors, si je peux vous couper, Justina, j'aimerais faire une petite parenthèse. Vous citez l'ancienne du Magnificat des deuxièmes vêpres de cette fête, qui exprime d'une manière bien adéquate la grandeur du mystère de l'épiphanie et de la théophanie aussi. L'étoile a conduit les mages à la crèche, l'eau a été transformée en vin aux noces de Cana, au jardin Saint-Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur pour la rédemption de nos péchés. Et là, je citerai Monseigneur Lefebvre qui commente trois miracles en effet, trois événements importants. Il semblerait à première vue que ces événements n'ont pas un lieu profond entre eux. Et pourtant, au contraire, ces trois miracles ont une union profonde dans l'effusion de l'Esprit-Saint que Dieu a voulu nous donner par son incarnation pour accomplir sa rédemption. Je pourrais aussi citer le sermon sur la Sainte Théophanie de Saint Hippolyte. « La fête du baptême de Jésus prolonge l'épiphanie. Le mystère de l'épiphanie où le Fils de Dieu se manifesta petit enfant au mage, venu l'adorer à Bethléem, appelle à faire mémoire du Christ adulte, baptisé par Jean le Baptiste. » Fin de ma parenthèse.
Oui, tout à fait.
Merci.
Donc, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, les fêtes se sont découpées, les accents sont mis de manière différente, mais voilà, je tenais aujourd'hui à rappeler à nos auditeurs que finalement, ces trois fêtes sont intrinsèquement liées. Ce n'est pas la question de savoir qui a la bonne tradition et qui a la mauvaise, mais c'est le but est de démontrer que le lien historique entre les trois fêtes est ancré dans la tradition des églises apostoliques. Et malheureusement, en 2023, on ressent un petit peu la nécessité de sauver Noël, mais pas que Noël pour le coup, parce qu'il y a l'épiphanie et la théophanie, face à toutes sortes de Krampus, ceux qui ont la référence, ou
alors,
Grinch.
Alors, donnez-nous la référence.
Bah, le Grinch est un peu plus connu, mais le Krampus...
Oui.
C'est comment dire, une créature dans le folklore plutôt germanique, cornue, méchante, qui en général vole les méchants enfants à Noël et ils disparaissent à jamais.
Donc, ceux que Saint Nicolas récupère, non ?
Oui, c'est ça.
Ah oui.
Donc il faut quelque part voilà, sauver nos fêtes contre toutes sortes de Krampus, de Grinch si vous préférez, voilà.
Car
même si les accents liturgiques ne sont répartis différemment, la source est la même.
Merci beaucoup, Justina. Alors, j'ai une petite actualité à vous donner. Je vous rappelle que Bernadette de Lourdes, le spectacle musical, est dans toute la France. La durée du spectacle dure environ 2 heures, avec un entracte de 15 minutes. Je vous donne des lieux au Zénith de Rouen le 20 janvier 2024 à 20h. Au Zénith de Rennes, le dimanche 21 janvier à 15h. Au Glaz Arena de Cesson-Sévigné, à côté de Rennes, encore les 27 janvier et 28 janvier prochains. Alors Dominique Chollet, je ne veux pas terminer cette émission sans que vous me disiez en 2 minutes, s'il vous plaît, ce que contient cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds.
Cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, c'est bon, elle est, si vous la... prenez, ou je ne reviendrai pas sur ce que je disais tout à l'heure. Et si vous l'avez entre les mains, donc, c'est un petit bouquin qui fait 24 pages. Et c'est assez dense. C'est, quand on le fait un peu rapidement, il faut 20 minutes. Quand on le fait moins rapidement, il faut 35 minutes. Bon. Mais quand on
c'est ardu.
Mais quand on a un problème, un vrai problème, comme j'en ai eu un, eh bien, 20 minutes ou 35 minutes, c'est quand même très, très peu.
Oui.
Et globalement, disons que ça fait 25 minutes. Et qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, il y a trois prières piliers, si je peux dire, que l'on dit chaque jour, pendant 9 jours. Et puis, il y a des méditations toutes différentes pour chacun des 9 jours. Et il y a, à côté, quand on a fini les trois prières, eh bien, on dit on dit un chapelet, c'est-à-dire 5 dizaines de chapelets. Il y a bien des personnes qui m'ont demandé ce que c'était qu'un chapelet. Je leur dis que c'est d'abord un objet. Et puis après ça, je leur explique comment, qu'il y a 5 fois dit je vous salue Marie, plus un autre père, etc., etc. Sans oublier les 3 je vous salue Marie de départ à l'intention du pape, parce qu'il en a bien besoin, le pauvre.
Oui.
Et voilà, donc 3 prières, un chapelet, ça fait 25 minutes.
Très bien.
Et à la fin, promis, eh bien, la Sainte Vierge aura répondu. Alors, je ne sais pas si elle vous aura répondu pendant la neuvaine, ou bien après, mais promis, juré, elle répondra.
Alors,
Comme vous pensez.
Oui. Une émission bientôt sur tous les témoignages, enfin sur de nombreux témoignages que nous avons reçus, parce que cette neuvaine a cette spécificité. Vous le direz, vous le savez mieux que moi, c'est que souvent les gens sont exaucés avant les 9 jours. C'est souvent phénoménal.
Souvent, c'est vrai.
Vous pouvez aussi, comme vous le disiez, ne pas voir ce qui nous a été donné et le voir bien après.
Bien après, c'est vrai. C'est tout à fait juste.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Dominique. Merci Youssina. La semaine prochaine, Youssina, je crois que vous allez répondre à une de mes questions que je vous ai posées en novembre.
Oui, tout à fait.
Très bien. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.